Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui autour de la table Paul Lassène, Daniel Riolo, Perico Légas et Robert Sebag. On vous attend également très nombreux au 32-16 pour agir à notre prochain débat. On va parler de Léa Salamé qui, dans son émission Quelle Époque, samedi soir, en fait a lancé une boutade au comédien Artus, lui disant qu'il devait être chiant parce qu'il avait arrêté l'alcool. Est-ce que ça vous choque? Les propos ont fait polémique sur les réseaux sociaux. On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On parlera notamment de la fermeture de l'autoroute A13 avec des élus écologistes qui s'en félicitent. Et puis, on se demandera s'il faut stopper le financement public de Sciences Po. À 14h, le succès des croisières, 40 millions de passagers attendus en 2027, malgré la mobilisation de plusieurs villes. Est-ce qu'il faut limiter le nombre de croisières? Et puis, à 14h30, ce sera RMC Conso. On parlera du micro-ondes. Beaucoup d'idées reçues comme quoi le micro-ondes peut être dangereux pour la santé. On tentera de démêler le vrai du faux. Ce sera avec Charlotte Méritant à 14h30.
RMC Estelle Midi.
13h03 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la polémique du jour. Ça s'est passé samedi soir lors de l'émission Quelle Époque sur France 2. La présentatrice Léa Salamé recevait entre autres le comédien Artus qui lui a confié avoir arrêté l'alcool, et l'échange qui a suivi a choqué de très nombreux médecins et internautes. Écoutez.
J'ai arrêté de fumer.
Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant.
Oui, c'est très français ça, de dire. C'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien au fait de pas boire de l'alcool forcément.
Oh là là, bien sûr. Donc.
Mais quoi, je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc-là? Si j'avais dit j'arrêtais la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo.
Voilà, c'est Artus qu'on a entendu avec Léa Salamé. Et ses propos de Léa Salamé ont créé la polémique, hein, Paul?
Oui, cette séquence diffusée directement sur le compte X, anciennement Twitter, de l'émission, a suscité une vague d'indignation de la part de nombreux internautes. Alors, beaucoup accusent l'animatrice de dévoyer un combat de santé publique extrêmement important. L'alcool est un fléau, c'est vraiment plus que limite ce genre de parole, dit par exemple cet internaute. Un médecin dénonce, lui, l'attitude de la chaîne, voilà ce qu'il dit. Vraiment dommage que le service public véhicule ce type de message. Ne pas boire n'est ni une marque de faiblesse, ni le signe d'une non-convivialité. C'est au contraire très respectable et gage d'une prise de conscience des risques de ses conduites pour la santé. Alors cette polémique, elle relance le débat éternel sur la relation des Français avec l'alcool, alors que la lutte contre l'alcoolisme est une des priorités du gouvernement. Il y a quelques mois, ils ont même lancé une campagne de sensibilisation sur la surconsommation d'alcool chez les jeunes. Il faut savoir que la France est toujours l'un des pays au monde où on consomme le plus d'alcool. 42,8 millions de consommateurs chaque année. Un fléau qui tuerait 49 000 personnes tous les ans pour un coût social estimé à 118 milliards d'euros.
Alors, les propos de Léa Salamé vous ont-ils choqué? Je vais me tourner vers vous, Robert Sebag.
J'en étais sûr.
Bah oui, c'est logique.
Non, c'est tout à fait logique.
La voix du médecin.
Il y a deux choses. D'abord, c'est vrai qu'on est en face de deux problèmes de santé publique majeurs. Je ne vais pas faire de la morale. C'est une réalité, le tabac et l'alcool, et peut-être encore plus le tabac que l'alcool. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez des personnalités, vous en êtes une, Estelle, qui ont quelque part une exemplarité. Si une personne importante dit, voyez, vous allez devenir chiant, ça veut dire, si vous voulez, que la prise d'alcool, c'est désinhibant, et donc ça permet de faire et d'être particulièrement gay. Ça me paraît, de quoi se mêle-t-elle? Je veux dire, lui, il l'a fait, il n'est pas plus chiant, il reste toujours un humoriste. Donc, il fait ça. Je veux dire, lui, il a un exemple, il donne un exemple extrêmement positif de quelqu'un connu, et la journaliste lui dit, vous allez devenir chiant. Non.
Après, c'est une boutade au départ. En fait, il a expliqué que c'était pour calmer ses angoisses qu'il a arrêté l'alcool.
Il lui répond, et je pense que ce qu'il fallait faire, c'est effectivement ce qu'il lui a dit. Il a dit, enfin, de quoi je me mêle? Et en fin de compte, il a remise dans ses cordes. Donc, attention, on joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça, parce qu'on joue, si vous voulez, en particulier sur des jeunes, c'est important. Il dit, ah, t'as vu, même Lya Salamé dit, laissez-moi fumer, laisse-moi boire. Tu vois, je vais être moins chiant, je vais être plus sympa.
Oui, bah, Sardou aussi, des fois, il le dit, voilà. Après, c'est une boutade à la base.
Moi, les gens font ce qu'ils veulent. Mais les gens doivent être informés, effectivement, des risques liés à l'alcool et liés à la cigarette. C'est tout.
C'est un talk show, après. C'est un talk show, quand même, avec de l'humeur. Il y a plusieurs humoristes sur son plateau. Elle le fait pas en se disant, allez-y, faut fumer et boire. Je pense pas.
Non, mais il lui répond une chiant. Elle prononce le mot chiant.
Oui, deux fois. C'est vrai. Est-ce que ça vous a gêné, Perico Légas, ou est-ce que vous dites, si bon, on peut plus rien dire, quoi?
Je suis à la limite du traumatisme. J'avais des doutes sur le fait qu'on vivait dans une société de merde, mais j'avais pas la preuve. Là, j'ai la preuve, c'est une société de merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce procès d'intention à la Salamé? Et Dr Sebag a totalement raison sur les enjeux. Mais c'est pas ce qu'elle a voulu dire du tout. On est dans une émission d'humour, de détente avec un humoriste. Effectivement, les gens qui sont dans le puritanisme et je combats la consommation d'alcool parce que je suis dégustateur de vin et je dénonce la consommation du tabac que je ne fume pas. On est totalement d'accord. Mais ce dialogue-là, dans cette émission-là, elle s'appelle Quelle époque? C'est l'émission du décalé. C'est un peu la mission, un peu la provocation. On est dans l'humour. Personne ne va soupçonner Léa Salamé de dénoncer quelqu'un qui a arrêté. Et c'est vrai que les gens qui sont un peu dans le, on fait attention, sont plutôt chiant. Je dois dire avec affection.
Ça, c'est ton point de vue, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux plus dire en soirée, tiens, quand on te propose un verre de vin, tu dis non merci, on te dit quoi, si t'arrives, t'es malade.
Eh ben si, en République française, sur le service... en République française, sur le service public, l'animatrice Léa Salamé, auquel on peut reprocher de temps en temps d'autres dérives ou d'autres allusions, là, elle est irréprochable. C'est pas méchant, c'est pas malsain, elle ne pense pas à mal, elle est dans un dialogue cordial et humoristique.
T'as les médecins qui disent pas la même chose.
Mais je les emmerde.
Ah bon, bah c'est sympa pour celui qui a joué avec toi.
Tous les gens qui ont trouvé cette scène déplacée, je les emmerde.
Non, tu peux pas dire ça, Perico.
Voilà. Perico, alors Martus, je les emmerde. Parce que c'est pas ça qu'elle a voulu dire. Je parle de ceux qui veulent chercher à Léa Salamé des noises.
Je cherche pas contre elle.
Ce que dit Robert, je souscris. Mais chercher des noises à Léa Salamé, sur cette phrase-là, dans ce contexte-là, je les emmerde.
Non, mais pour moi, c'est une boutade. Voilà, Léa Salamé, elle est dans ce rôle, c'est une boutade. Mais ce qui est vrai, et on en a beaucoup parlé ici, notamment lors du Dry January, c'est vrai que c'est compliqué pour des gens qui, par exemple, arrêtent l'alcool. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on te met ça et on te dit, tu vas devenir chiant.
La malbouffe du plus. Oui, que ces gens-là aient manifesté devant les grandes surfaces où on vend des malbouffes aux enfants. Sucrés.
Arrêter l'alcool, ça devrait être bravo, t'as réussi à arrêter l'alcool. Et en fait, ça ne l'est pas. C'est plutôt, tu vas devenir chiant. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ce n'est pas le ton de cette émission. Vous êtes à la tête de l'émission la plus drôle de France, qui est Estelle Midi. On peut tout dire. Voilà. Personne ne vous fera le reproche. Et de temps en temps, nous avons quelquefois des excès ou des dérives. Elle est à quelle époque dans cette émission-là? C'est l'esprit de l'émission. Elle a rempli son rôle. Et ceux qui ne sont pas contents sont les pauvres cires.
Est-ce que c'est gênant parce que c'est aussi sur le service public, Daniel Riolo?
Non. Je ne vais reprocher à personne une phrase qui embête les bien-pensants sur un plateau, parce que franchement, ce serait un mauvais procès que moi je ferais.
Oui, c'est vrai que vous êtes mal placé.
On est en train de parler d'une polémique créée par qui? Bon, comme d'hab, trois abrutis sur les réseaux sociaux, enfermés dans leur chambre, des boutonneux, qui évidemment...
Bon, c'est surtout des médecins, merci pour
Des peines à jouir.
Voilà.
ceux qui l'ont fait, je ne dis bien pas tous.
Très franchement, j'ai envie de rien lui reprocher du tout. Entretiennent l'idée, effectivement, en France, fait un peu de mal de l'alcoolisme, de la culture de la picole plutôt, de l'alcoolisme mondain. C'est vrai qu'il y a ça en France. Maintenant, est-ce qu'elle en a fait la promotion en répliquant de cette façon à Artus? Je ne crois pas non plus. Et d'ailleurs, c'est plus tombé, ça a plus fait l'effet d'une vanne auquel le public a rigolé immédiatement.
Évidemment.
Immédiatement.
En fait, c'est le deuxième propos. Le premier est une vanne et le deuxième, en fait, elle renchérit. Et c'est là où il lui dit, mais attends, c'est bon.
Quand elle lui répond,
quand elle renchérit, qu'est-ce qu'a fait Artus? Il lui a dit, en gros, il lui a répondu d'ailleurs de façon très intelligente.
Très bien.
Voilà, très bien. Et donc, on a eu un débat. Enfin, débat. Phrase et réplique plutôt intelligente, puisque justement, il l'a recadré.
Oui.
Voilà.
Stop, la preuve que c'est de l'humour, il répond avec humour.
Terminé. Il répond avec humour à une phrase qui est une sorte de vanne qui s'entend effectivement, qu'on peut trouver être
pas une bonne vanne, et puis basta. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui filer un gage? Il faut quoi? Il faut la sanctionner? C'est quoi l'idée de la polémique maintenant?
Non, mais c'est
quand on crée des polémiques comme ça, c'est on veut aboutir à quoi? À quoi on veut aboutir?
En fait,
à chaque fois qu'il faut se poser comme question. Moi, évidemment, dans à peu près, je dirais, une demi-heure, 45 minutes, évidemment, ce qu'on a dit sur la GPA va donner lieu à polémique. Évidemment qu'on sera traité de facho, d'homophobe ou de quoi ou qu'est-ce. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce que veulent les gens qui créent ces polémiques sur Twitter?
Daniel,
ils veulent la peau des gens. En fait, on veut la peau des gens, c'est ça? Pour des phrases sur les plateaux télé, on veut la peau des gens. On en est là?
Alors, je laisse Robert te répondre.
Daniel, les gens sont très très sensibles aux personnalités. Hein, ils sont fascinés.
Qu'est-ce qu'on fait, Robert?
Laisse Robert parler.
Par Estelle, etc. Le mot chiant, il est très fort, il peut dire triste. Et donc, des gens, ils vont dire, ah, mais merde, moi, j'ai arrêté de fumer. Est-ce que je suis devenu chiant, maman? Est-ce que je suis devenu chiant à sa femme, à ses amis? T'as vu ce qu'ils ont dit? Je suis pas chiant, moi, je me trouve comme avant. Donc, quelque part, si tu veux, d'abord, le mot chiant, il est très fort. Elle aurait dit triste. T'as changé? Le mot chiant, il est pas complètement anodin. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire, il y a des gens dont les paroles, elles sont bues systématiquement parce qu'ils sont connus. C'est tout ce que je veux dire.
Après, là où il y a polémique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, et tu l'as répété souvent en parlant de culture de la picole en France, Daniel, il y a cette culture, il y a beaucoup de gens qui essaient de s'en sortir, et c'est vrai que quand t'entends à une heure de grande écoute à la télé quelqu'un qui te dit tu vas devenir chiant, t'arrêtes l'alcool, moi je comprends.
Je peux pas vous laisser dire ça. Les gens qui dégustent du vin comme moi ne sont pas de la picole, et si demain je devais arrêter de boire du vin parce que le docteur Tsebag me dit tu bois plus une goutte de vin, eh ben je deviendrais chiant tout de suite parce que je serais profondément déprimé. Et je suis pas alcoolique.
Oui,
c'est un plaisir.
Je te le dirai.
Je vous en supplie. Laissez à chacun sa responsabilité. Il y a l'alcool qui fait des ravages et le combattre est une nécessité sociale. Il y a des gens qui consomment de l'alcool, du vin, donc dans lequel modérément. Et s'ils doivent s'arrêter parce que ça peut arriver, eh bien oui, on devient triste.
Excuse-moi, quand on dit j'ai arrêté l'alcool, a priori c'est qu'on buvait pas un verre par semaine.
Je parle pas de ces cas-là. Je parle de ceux qui boivent modérément du vin et qui doivent plus en boire parce qu'ils peuvent plus en boire. Et ceux-là, évidemment, ils deviennent tristes, donc ils deviennent chiants. Elle a eu raison de le dire.
On peut ne pas boire d'alcool et ne pas être
Moi, je suis désolée.
Non, mais attends, pardon. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai envie de le dire, ça. Je suis désolée, il y a des gens qui boivent pas d'alcool et qui sont
en
pas
général,
chiants.
Les personnes seront en désastre.
Alors, avec toi, en général, Estelle, c'est compensé par autre chose. De très bien. Mais quand on boit pas et qu'on est drôle, c'est qu'on a une autre source de bonheur dans la vie.
Non, mais t'as absolument raison, Estelle.
Merci.
Dit ça. Évidemment. Et je crois qu'on est tous d'accord. Et sur la dernière phrase de Perico, je serais pas d'accord avec lui. Mais il le dit. Léa Salamé fait cette phrase où, effectivement, on peut juger malheureuse. Quand il y a ces polémiques-là, moi, ce que je demande à chaque fois, c'est mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, on rappelle qu'en fait, arrêter l'alcool, c'est bien, et qu'on n'est pas, et que justement, cette polémique, elle va servir.
Non. Mais ça se termine en jugement sur la personne. Qu'est-ce qu'on lui fait à
Mais non,
à
mais c'est
Léa
pas Léa Salamé. En fait, son propos va nous permettre, en fait, de rappeler qu'effectivement, l'alcool, et Paul, il le rappelle.
Alors, on n'accuse pas Léa Salamé dans ce cas-là.
Non, mais c'est
d'avoir eu une phrase qui est peut-être pas.
Mais attends, on va pas la faire virer du service public.
Il y a des gens qui demandent ça. C'est ça le problème.
C'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout ce qu'on demande.
On ne peut plus rien dire en France aujourd'hui sans se faire tacler tout de suite de ce qu'on n'est pas.
Voilà. Maintenant, c'est pas un autre débat. Je te l'ai dit. Bon, maintenant, c'était 45 minutes. Ça va être dans 40 minutes sur la GPA. On va être traité d'homophobe.
Bien sûr.
Bon,
on a dit que c'était pas le débat et qu'on s'en foutait justement, qu'il fallait surtout pas dévier sur ce débat.
En tout cas, c'est un débat qui passionne nos auditeurs, qui sont très nombreux à patienter au standard. Et je voudrais qu'on prenne Anaïs tout de suite, qui nous appelle du Finistère. Bonjour, Anaïs.
Bonjour à tout le monde.
Anaïs, bonjour. Est-ce qu'ils vous ont gêné, vous, ces propos de Léa Salamé?
Gêné, j'entrerai pas dans cet extrême-là, mais je trouve qu'effectivement c'est pas à propos, et pourtant je suis souvent d'accord avec Perico, mais là je me suis pas du tout aujourd'hui. Je trouve qu'il y a même beaucoup de jugement en fait dans ce que vous dites. C'est quand même une émission de grande écoute. On a justement un humoriste qui lui pour le coup a beaucoup d'humour, hein, et très décalé, contrairement à l'émission en général. Mais là moi je suis pas pour du jugement, je suis là pour dire qu'Arthus parle d'un sujet qui je trouve est important. On est tous, moi j'ai même arrêté de fumer il y a 6 ans, je commence à réduire ma consommation d'alcool, et pourtant j'adore déguster, mais là aussi, hein, la frontière, elle est très limite entre qu'est-ce qu'on appelle l'alcoolisme, qu'est-ce qu'est la consommation quotidienne, etc. Et je trouve ça très bien qu'il ait osé parler de tout ça. En plus, il parle de ses angoisses en début d'émission, vous l'avez dit. Et je trouve juste que voilà, c'est pas à propos. Je pense que c'est suffisamment médiatisé que la consommation d'alcool aujourd'hui, elle est dangereuse pour la santé, qu'il faut faire attention. Et elle est entendue, elle le sait, elle doit être exemplaire, elle l'a pas été, c'est tout, point. Enfin, voilà.
Merci. Voilà, j'aime ce qu'elle dit. Elle dit
okay, point. Merci, merci,
voilà, la phrase est pourrie, stop, on n'en parle plus.
Ouais, mais tu vois, c'est tout le débat et qui permet aussi de parler de la difficulté voilà, à arrêter l'alcool. Anaïs, est-ce que vous aimeriez qu'elle s'excuse finalement, Léa Salamé, ou bon, bah voilà, ça y est, c'est passé, le message est passé, on passe à autre chose.
Ouais, enfin voilà, il n'y a pas besoin non plus d'exagérer. Ouais. Je pense que là où Perico a raison, c'est qu'après, on ne peut plus rien dire non plus. Donc elle a droit à un thérapage, un petit message d'excuse, pourquoi pas. C'est juste de bien recentrer que, oui, bien évidemment, elle a conscience que la consommation d'alcool n'est pas forcément quelque chose de bon pour la santé, bien évidemment, et qu'elle replace un peu le propos, c'est
voilà.
tout.
Je pense qu'elle le fera, elle rétablira.
Ben, exactement.
Sans s'excuser, elle dira qu'elle regrette d'avoir blessé les gens, c'est un mot.
Oui, c'est même pas blessé, mais c'est aussi se rendre compte que c'est pas toujours facile d'arrêter l'alcool et que, voilà, c'est un parcours du combattant pour plein de gens et qu'effectivement, en disant aux gens, vous allez devenir chiant, le message n'est pas forcément le bon. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas mort d'homme, évidemment. Merci beaucoup, Anaïs, en tout cas, d'avoir été avec nous. Julia, également, nous a appelé au 32-16 depuis les Hauts-de-Seine et Julia, elle est chargée de production à la télévision, Julia ?
Non, pas du tout.
D'accord.
Non, moi, je suis dans les télécoms. C'est moi qui vous donne le flux pour que vous puissiez être
à la télé.
Ne vous vantez pas. Merci beaucoup pour ce flux.
On va faire très attention à Julia. Voilà, Julia, vous les avez pris comment ces propos de Léa Salamé ?
Je trouve qu'on donne beaucoup d'importance à une petite phrase anodine, à mon coup. Pourquoi ? Parce que effectivement, on est tous d'accord, l'alcool, les drogues, la cigarette, tout ça c'est mauvais, mais il y a un moment donné, il faut qu'on arrête. C'était un samedi soir, dans une émission, elle rigolait avec un humoriste. Mmh. Cette petite phrase, je pense qu'on l'a toute dite, nous toutes, avec des amis qui ont arrêté pour justement désacraliser et donner une petite touche d'humour pour dire bah, c'est très bien, tant mieux pour toi, et voilà, c'est tout.
C'est vrai, en plus.
Et même si c'est chiant, on t'aime quand même, Julia. C'est ça, on t'aime quand même.
C'est vrai que derrière cette vanne, il peut aussi y avoir t'es chiant, mais ouais, non, mais évidemment que t'as bien fait. Évidemment que t'as bien fait. Et ça, on oublie que parfois, il y a également un double sens dans cette phrase-là.
Très bien.
C'est juste une phrase, une vanne, un peu comme ça. J'aime bien ce que dit Julia, c'est vrai.
Et merci Julia de nous avoir appelé et puis surtout merci de nous permettre de bosser chaque jour. C'est grâce à Julia finalement qu'on travaille. Alors merci. Vous mettez pas en grève, hein. Non, je rigole. Merci Julia d'avoir été avec nous et on a plein de messages également sur l'appli RMC.
Oui, plein de messages. Nico qui nous dit on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Elle n'a fait que dire à la télé ce que tout le monde sort à quelqu'un dans cette situation. Avant on appelait ça seulement une blague. Et Jean-Marie qui dit les propos de Léa Salamé sont un peu légers. J'ai eu des alcooliques dans ma famille et cela détruit tout. On ne se rend pas compte le mal que ça peut causer beaucoup aussi. Voilà. Nos auditeurs rappellent que dans la même émission, Claire Chazal a reconnu être en train de boire du champagne pendant l'émission. Et Léa Salamé, qui ne se cache pas pour cette émission, de dire qu'avant chacun des enregistrements, elle boit un petit verre de vodka histoire de se détendre. C'est ce que soulignent certains de nos auditeurs.
Alors, notre invitée sur ce débat, c'est Charlotte Perronnet, qui est auteure du livre « Et toi, pourquoi tu bois ?» aux éditions de Noël. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Et merci Bonjour. Beaucoup d'être avec nous pour ce débat. Justement, vous avez un passé d'alcoolique, hein, Charlotte, vous le racontez dans votre livre. Justement, est-ce que ça vous a choqué ces propos de Léa Salamé ?
Ah bah moi ça m'a énormément choqué.
D'accord.
Ça m'a énormément choqué parce qu'en fait tout à l'heure j'entends le fait que c'est une petite phrase, mais cette petite phrase elle fait du mal en fait en réalité parce que cette petite phrase, bah moi ça fait 3 ans que j'ai arrêté de boire et ça fait 3 ans qu'on me pose la question de pourquoi je bois pas. Ça fait 3 ans que quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, j'ai l'impression de le décevoir en fait quand je lui dis que je ne bois pas. Et en fait, tout à l'heure, j'entendais aussi, mais à quoi on veut aboutir avec cette polémique ? On n'a pas envie de faire une polémique pour faire une polémique, mais on veut juste aboutir à un peu de tolérance, en fait. Que le fait de ne pas boire soit un non-sujet, assez simplement. Qu'au même titre qu'on, voilà, on peut poser la question de pourquoi on boit pas. On peut aussi s'interroger sur le fait de pourquoi on boit, assez simplement. Et venant d'une personnalité publique, c'est un peu gênant en fait, juste un peu de tolérance.
Et c'est vrai que finalement, quelqu'un qui vous dit j'ai arrêté de boire, on devrait le féliciter. Quelqu'un qui a perdu du poids, tu dis qu'est-ce que t'es belle, t'as perdu. Voilà, quelqu'un qui a arrêté la drogue, tu dis bravo. Quelqu'un qui a arrêté de fumer, tu dis c'est génial. Mais c'est vrai que là sur l'alcool, tu dis qu'est-ce que t'es chiant. Mais c'est vrai que c'est le seul domaine où en fait on ne félicite pas les gens d'avoir arrêté quelque chose.
Mais il faut imaginer la même question avec une autre drogue, parce qu'en fait finalement, l'alcool est une drogue, alors certes légale, mais c'est quand même une drogue.
Non, madame, je suis désolé. Je peux pas vous laisser dire ça. Les gens qui consomment du vin modérément pour le plaisir de consommer du vin ne sont pas des gens qui prennent de la drogue. Vous n'avez pas
absolument
le droit de dire ça.
Mais là,
vous discréditez votre propos.
On est en train de parler de consommation d'alcool
massive.
On est en train de parler de consommation d'alcool de manière addictive.
Complètement.
Et je pense que Artus, clairement, quand il dit qu'il a fait des crises d'épilepsie quand il a arrêté de boire, on est sur quelqu'un qui a une consommation qui est problématique et addictive.
C'est ça.
Et donc, en effet, et d'ailleurs, moi, j'ai pas du tout vocation, je suis pas hygiéniste, j'ai absolument pas vocation à ce que les gens arrêtent de boire, bien au contraire. Si les gens connaissent la modération, mais vraiment, tant mieux pour eux. Dommage, c'est pas mon cas, mais tant mieux pour ces gens-là. Et vraiment, en fait, juste de se dire, est-ce qu'on boirait pas si on a envie de boire? Est-ce qu'on foutrait pas la paix à ceux qui décident de ne pas boire? Parce qu'en fait, on a plein de raisons de ne pas boire.
C'est
moi,
vrai.
En l'occurrence, je bois pas parce que je suis alcoolique et donc je tente de rester sobre. Mais on peut avoir plein de raisons pour lesquelles on boit pas et qui finalement sont peut-être pas discutables. C'est ça, en fait. Il faudrait
c'est
juste
ça.
Se dire que on normalise le fait de ne pas boire. Et il y a justement tout un truc sur la sobriété joyeuse en disant en fait je bois si j'ai envie de boire, je ne bois pas si j'ai pas envie de boire, je danse si j'ai envie de danser, etc. Et juste qu'on questionne pas ces choix là en fait.
Et ce qui est fou, Charlotte Perronnet, c'est qu'en fait c'est une question ultra indiscrète. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, tu lui tends un verre de vin et il te dit non merci je bois pas, tu vas dire ah bon, et en fait tu vas lui dire pourquoi tu bois pas. Moi ça m'est arrivé, la personne a dit parce que j'ai eu un grave problème avec l'alcool, et je me suis retrouvée tellement bête devant cette personne. Mais finalement c'est une question qui est hyper intrusive.
Le problème, c'est que cette question se pose parce que les gens posent cette question,
Daniel.
Moi, je pose jamais la question.
Je t'assure, tes amis savent que tu ne bois pas.
Il y a un rituel social, tu es dans un dîner, on te sert à boire. Non, merci. Ah bon, tu bois pas, toi?
T'es sous médoc, on va dire. Alors, déjà, c'est hyper indiscret, t'es sous antibiotiques, c'est hyper indiscret.
J'entends que ça puisse provoquer des questions un peu débiles derrière. T'es malade, t'es ceci,
t'es ça.
Oui, c'est vrai.
Alors que tu dirais, j'ai arrêté la clope, personne ne te dirait pourquoi. Oui, t'as arrêté la clope, parce que
c'est pas très... Oui, comme a dit Artis justement dans l'émission, où je suis plus juste après, il dit si j'avais dit j'ai arrêté la coke, on m'aurait pas demandé pourquoi t'as arrêté la coke.
Chiant
parce que t'as arrêté la coke.
Ou même, si quelqu'un te dit j'ai perdu du poids, tu vas dire ah bon, pourquoi? En fait, c'est des questions qui sont ultra indiscrètes.
Oui, mais ça, c'est en fait.
Et qui amènent des réponses qui sont jamais très gaies.
On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une tradition de l'alcoolisme mondain, de la culture de la picole en France, qui amène ces questions-là.
Oui,
que toute fête s'agrémente d'un petit peu d'alcool, que pour faire la fête il faut être un peu joyeux, et que être joyeux c'est l'alcool qui t'y emmène. Oui, c'est une tradition. Alors si l'idée est de combattre le fait que forcément faut boire pour s'amuser, alors dans ces cas-là, je suis d'accord que ce combat, il faut le mener. On n'est pas obligé de boire, ça c'est vrai.
Et pour le coup, je pense que cette phrase de Léa Salamé, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça a permis de reparler de ça. Et je pense que voilà, les gens qui auront vu cette polémique, elles éviteront de dire à chaque fois, pourquoi tu ne bois pas.
Ils ont gagné là. Hein. On a mis le chien dans les chambres Busini sur le même plan que la cocaïne. C'est parfait.
Mais
ils ont gagné.
C'est pas du tout ce qu'on te dit.
Je sais bien, mais il y a des gens qui en sont là.
Et Charlotte, qui est avec nous, te parle bien de consommation massive, et c'est de ça dont on parle. On te parle pas d'un petit verre de temps en temps, évidemment. Péricot, tout le monde.
Et bien, Léa Salamé ne dénonçait pas le fait. Voilà,
elle ne dénonçait pas, mais en fait, ça permet d'en reparler et de dire que, poser et dire à quelqu'un dans une soirée tu bois plus, t'es chiant, c'est peut-être pas la bonne idée. C'est tout. Voilà. Et
toute addiction est un drame. Et en même temps, l'abstinence peut être sujette à quelque part à un changement de comportement quand on est dans l'abstinence.
Oui, mais on n'est pas obligé en fait de mettre le doigt dessus. Merci Charlotte Perronnet en tout cas d'avoir été notre invitée sur ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Et toi, pourquoi tu bois, aux éditions de Noël. Est-ce que nos auditeurs et téléspectateurs sont d'accord avec Charlotte Perronnet ou plus avec Péricot?
Alors, on vous a posé la question, la remarque polémique de Léa Salamé sur l'alcool vous choque-t-elle? Eh bien, vous répondez oui pour 66% d'entre vous.
Ah, surprenant. Voilà, et on a un message de Stéphane également d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne. Il est masseur kinésithérapeute et il dit qu'il n'a pas du tout été choqué par les propos de Léa Salamé, car il a toujours entendu ça dans son cercle privé. Je ne fume pas, je ne bois pas et je ne me considère pas chiant. Quand je sors avec des copains, comme je ne bois pas, on ne me dit pas que je suis triste. Ce qui est triste surtout, c'est d'avoir besoin de boire pour s'amuser. Moi, je m'amuse sans alcool. Dans un instant, ce sera le le zapping, le meilleur des RMC. On va parler de la fermeture de l'autoroute A13. Vous savez qu'il y a eu des joggeurs et des vélos ce week-end sur l'autoroute. Ça a fait le bonheur de David Béliard. Mais les automobilistes, eux, ils pestent, hein, parce que ça va continuer cette fermeture. On va se demander également s'il faut stopper.
Béliard, il voulait carrément, vu qu'il dit ça, il faut fermer l'A13.
Il veut fermer l'A13 et puis on va plus en Normandie. C'est formidable de voir des gens passer à roulette, de voir des gens en trottinette.
Au fond, quelque part, dans sa réaction, il y a son idée totalement extrémiste.
On peut en parler après la pub, parce que ce sera l'un des.
La pub, là.
Bah oui, parce que ce sera l'un des sujets du zapping. Tu vois, ça s'appelait un teaser. Toi qui fais de la radio depuis 25 ans, tu devrais quand même savoir ce que c'est. Et puis à 14h, on parlera des croisières. Les croisières qui ont le vent en poupe, mais est-ce qu'il faut limiter le nombre de croisières? On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Paul Lassen, Daniel Riolo, Perico Legas et Robert Sebag. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur de RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Et on va parler de la fermeture de l'autoroute A13. Est-ce l'enfer ou le paradis? Depuis le 18 avril, une portion de l'autoroute A13 se trouvant à l'entrée de Paris est fermée jusqu'à nouvel ordre à cause de fissures sur la chaussée. Des cyclistes et des joggeurs l'ont donc investi, cette autoroute. Et l'adjoint à la mairie de Paris, David Béliard, s'en est félicité sur Twitter en estimant que le tout voiture nous empoisonne et nous emprisonne. Des propos inacceptables pour l'avocat Charles Consigny.
Ce qui est affreux, c'est que ça montre que, en fait, ce sont des fanatiques, ces gens-là. Ce sont des talibans de l'écologie. Ils ne pensent pas intérêt général, objectivité, efficacité. Ils pensent idéologie, fanatisme, punition. Aller se réjouir bêtement qu'il y ait trois pelés sur un tronçon d'autoroute en train de faire de leur jogging en disant c'est formidable, machin. Pour moi, c'est du fanatisme. Les autoroutes sont quand même aux dernières nouvelles faites pour que les gens puissent prendre leur bagnole, qu'elle soit, elle peut être électrique d'ailleurs, la voiture, n'en déplaise à Monsieur Béliard. L'atteinte, la liberté d'aller et venir est encore, sur le plan théorique, une liberté constitutionnelle.
Que ça.
Alors, la fermeture d'autoroute A13, est-ce que c'est l'enfer ou c'est le paradis finalement, Robert Sebag?
Taisez-vous, monsieur Béliard. Taisez-vous, on vous prendra au sérieux quand vous plaindrez les automobilistes qui passent des heures depuis la fermeture de cette autoroute dans des voitures. Il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des personnes malades. C'est un scandale. Et je vous prendrai au sérieux, monsieur Béliard, quand vous supprimerez tous les autobus qui restent le moteur allumé pour maintenir la climatisation dans les rues de Paris et qui polluent absolument. Là, vous serez pris au sérieux. Pas en disant ces bêtises pour quelques personnes qui sont en trottinette et qui courent sur l'autoroute. Ça suffit.
Bon, alors après, Robert, juste pour désamorcer un peu ce conflit, ça se passe plutôt pas trop mal. Il n'y a pas beaucoup plus de bouchons que d'habitude. C'est-à-dire qu'on pensait que ça allait.
C'est normal, quand tu le sais, tu ne vas pas. Hein.
Oui, bah non, mais j'entends.
Évidemment,
mais
tu sais que l'A13 est fermée, tu ne vas pas, à moins d'être complètement débile. Tu ne vas pas essayer de prendre l'A13 si elle est fermée.
Non, mais ça, j'entends. Mais en fait, il aurait pu y avoir un engorgement des voies adjacentes, et ce n'est pas trop le cas, tu vois.
Mais tu n'y vas pas. Tu sais que c'est le bordel, t'y vas pas.
Tu vas bien à côté, si
c'est comme, mais c'est comme les jours où tu sais on t'annonce grève, bloqué, machin. Bah c'est
le travail, augmentation du télétravail.
Hop là, dans Paris, le périph c'est fluide et ça roule comme dans du beurre. Bah oui, c'est normal, les gens restent à la maison, tu sais que tout est bloqué. Bah oui.
Mais
même pas. Là où les propos de David Béliard sont absolument stupides, c'est que le trafic automobile continue de la même façon. Il y a peut-être deux, trois personnes qui ont décidé de changer leur habitude. Mais il y aura autant de... C'est absurde, parce qu'on a fermé un bout de voie, il a gagné politiquement, parce que du coup, les gens sont restés chez eux pour prendre leur voiture. Mais il prend les gens pour des crétins. Enfin, c'est absolument absurde. Voilà.
Non, il se félicite qu'il y ait des joggeurs sur l'autoroute.
Non, mais attendez, quand son monde à lui, qui est un monde de contraintes, qui est un monde de peur, qui est un monde de privation, qui est un monde d'interdiction... Ces gens-là sont des inquisiteurs. Alors, heureusement qu'il n'y a pas les bûchers, mais ils nous mettent sur des bûchers moraux, à un moment donné. Ils nous brûlent parce qu'on prend la voiture. Il y a des gens qui prennent la voiture parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Et que le système social que Monsieur Béliard défend n'apporte pas la solution à cette réalité économique. Donc, il mesure ses paroles. Il a un poste très important. Je regarde que cette grande ville mondiale qu'est Paris soit aux mains de gens aussi incompétents, aussi sectaires et aussi doctrinaires.
Non mais après, il est écolo, il peut se féliciter du fait de voir des joggeurs, effectivement, trois trottinettes et trois vélos sur l'autoroute.
Il ne
peut pas plaindre les gens qui sont dans les bouchons.
Non, ça je crois qu'il ne peut pas.
Ils me font peur au pouvoir. Si un jour ils ont le pouvoir, ils me font peur. Eux, j'ai peur d'eux.
Bon, enfin, ils n'y sont pas encore. Péricot, ça va aller. On ne fait peur parce que, enfin, c'est quand même. Ah. Encore une fois, c'est pas hyper grave.
Non, parce qu'ils passent à l'acte, ces gens-là.
Hein. Ils passent à l'acte d'eau.
Ça faisait beaucoup les promesses qui sont pas tenues.
Il va pas fermer la 13.
La classe politique, c'est des promesses pas tenues. Voilà. Là, ça sera des promesses tenues.
C'est parce qu'ils ne seront pas au pouvoir, parce que sinon, c'est évidemment qu'ils fermeraient.
Enfin, si les écolos étaient au pouvoir, ils ne fermeraient pas les autoroutes, tu vois. Je ne crois pas.
Ils sont capables de tout, ça qu'on les reconnaît.
Moi, je me réjouis de cette phrase de David Belliard. J'aime quand ces gens-là parlent. C'est pourquoi ça permet de comprendre qui ils sont.
Ils se dévoilent.
Comme ça, au moins, ils se dévoilent. On sait que ce sont des fanatiques absolus, de dangereux extrémistes, totalement idéologues. Et tu sais, quelque part, bon, il y a quand même, là, pour les Européennes, grosso modo, 8% des gens qui s'apprêtent à voter pour les écolos.
Ah oui.
Comme ça, peut-être qu'ils perdront 1 ou 2% de gens qui ne sont pas fanatiques, qui sont écolos, qui se soucient
de
la planète.
C'est pas aberrant de voter écolos aux Européennes, si c'est aberrant.
Ah bah pour des gens comme ça, si.
Qu'est-ce que je viens de dire, Estelle? J'ai dit qu'il y a des gens qui se préoccupent de l'écologie, très bien, mais qui doivent savoir que eux ne sont pas les défenseurs, parce que ce sont des fanatiques.
Donc ça dépend lesquels.
Ben, je te dis qu'en tout cas, David Belliard en est un. Et tu sais, quand il y a le débat sur les JO, ça va marcher, ça va pas marcher. Quand on se plaint de la phrase qu'on entend un peu trop souvent, oh je vais fuir, je veux m'en aller, je veux pas être là, qui est une phrase quand même très négative pour cette immense fête que doit être l'organisation de ces Jeux Olympiques une fois tous les 100 ans. Mais qui a provoqué cette réaction là? Qui fait qu'on a peur des JO? Qui fait qu'on a peur d'être à Paris et qu'on veut tous s'enfuir parce qu'on se dit que ça va être un bordel incroyable et qu'on va pas s'en sortir? Ce sont eux, c'est
bien
la bande à Hidalgo. C'est eux qui ont transformé et qui font craindre le pire dans Paris. D'accord. Au-delà des problèmes de sécurité, tous les problèmes de circulation, de machins qui vont pas marcher,
enfin, ils existent,
de voitures. Oui, mais qu'est-ce qui a fait? Qui a créé ce climat de sinistrose totale? Hidalgo et sa bande?
Bah, je sais pas.
Ah ben si, moi je te le dis.
Bah, c'est les stations de métro qui seront fermées toutes les JO, c'est une réalité.
Moi je te le dis, c'est Hidalgo et sa bande qui font peur, qui concrètement font peur à tout le monde parce qu'ils voient tous ces travaux partout, ces routes qui sont bloquées et le fait qu'on n'avance pas dans Paris.
Ça on le voit.
Bah oui, c'est la bande à Hidalgo.
RMC Sport hier soir sur RMC, le PSG sacré champion de France pour la 12e fois. Est-ce marquant ou insignifiant? Depuis hier, le club de la capitale a remporté une nouvelle fois le championnat de Ligue 1 pour la 12e fois de son histoire. C'est en fait grâce à la victoire de Lyon sur Monaco. Mais cet événement était complètement insignifiant pour les membres de l'After hier soir sur RMC.
Il y a quand même un petit point au passage chez l'équipe du PSG quand même, qui est sacré ce soir et qui passe du coup totalement inaperçu.
Pardon Stéphane, mais alors c'est passé complètement,
c'était une grosse surprise en même temps.
Comme a dit Vous Savriquet, ils étaient champions depuis hier soir. Et c'est vrai qu'ils sont champions de toute façon.
Ils sont champions depuis le début du championnat.
J'ai déjà prévu mon avis pour ça demain soir.
Depuis le mercato d'été, ils sont champions.
Mais non, c'est vrai qu'ils sont champions.
Robert Sebag, vous êtes fan du PSG, vous êtes heureux de ce 12e titre ou vous en foutez complètement parce qu'en vrai, on savait qu'ils allaient être champions, quoi?
Non, c'est pas ça. Moi, j'attends, c'est mercredi soir, quoi.
Oui, donc vous en foutez.
Je savais, c'était prévu depuis très très longtemps. Par contre, la demi-finale, si ils arrivent en finale, ça fait 10 ans qu'on attend. On a vraiment envie que.
Voilà, demi-finale.
Au Graal, quoi.
Demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.
Vous m'en parlez ce soir.
Ce sera
quand
mercredi.
Même. Hier, il y avait beaucoup de matchs. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de ça. Et des matchs extraordinaires et après-midi. Mais ce soir, on en parlera. Bref. Et pour ma part, j'expliquerai pourquoi, malgré tout, il est quand même un petit peu différent, ce titre-là.
Mais je suis d'accord, mais toi,
il est extrêmement positif. Et il plaît beaucoup plus aux supporters que l'année dernière ou l'année d'avant.
C'est sûr, mais moi, tu vois, hier, j'étais avec mon fils qui est dingue du PSG et je lui dis ah, t'es content et tout, le PSG est champion. Il me dit mais enfin, maman, on le savait. Bon, bah, ok, bah super.
Oui, il n'empêche qu'il a une saveur qui est un peu différente de ces dernières années.
Voilà,
il est meilleur en goût.
Star, en fait.
Il est meilleur en goût.
C'est une équipe sans grosse star.
Le problème n'est pas
Neymar
les stars, le problème est le comportement qu'ont les stars. Et là, le collectif et l'esprit qu'a dégagé cette équipe fait plaisir.
Et force est de constater que ça marche. Péricot, les gars, j'imagine. Ça vous en touche une sans faire bouger l'autre.
Suivant.
Très bien.
Oh, merci, voilà.
Vous en fichez, le PSG champion de France.
Rien à cirer.
Oui, mais regardez, Brest, ce petit club de Brest, il va être européen. Ça vous parle.
Brest 4.
Voilà. Ça vous parle.
Bah, quand même.
Et vous voyez, bien sûr,
c'est
le syndrome petit poussin.
Ils n'ont pas de stade pour accueillir l'Europe, les pauvres.
T'inquiète pas.
J'en ai les yeux en vue et rien d'y penser.
D'accord.
Les GG ce matin sur RMC. Faut-il stopper le financement public de Sciences Po? La semaine dernière, une minorité d'étudiants de la célèbre école parisienne avait bloqué les cours afin de protester pour la cause palestinienne. Une cause soutenue par la France Insoumise, mais également par le guide suprême iranien. La direction a finalement trouvé un accord avec eux pour faire cesser ces blocages, ce qui indigne de nombreuses personnes, à l'image de Baudouin et des auditeurs RMC dans le Loir-et-Cher.
C'est lamentable que Sciences Po soit occupé de la sorte.
ce serait bien qu'on arrive enfin en France à avoir une position ferme, forte et courageuse, d'arrêter de se laisser enquiquiner, pour rester poli, par ces fauteurs de troubles. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, la cause palestinienne est complètement discréditée, puisque maintenant, elle est à la solde des barbus. Et qu'est-ce qu'on voit quand on écoute les petits gamins là, de Sciences Po et compagnie? C'est que certes, on est au-delà du kéfier maintenant. C'est carrément des femmes voilées, et la cause palestinienne, elle a disparu au profit de la cause du Hamas, qui pratique un emprisme hyper dangereux. Et on s'aperçoit pas qu'en fait, on va tout droit, si on va un peu plus loin dans le débat, on va tout droit vers une guerre de religion.
Voilà, Baudouin, un auditeur très, très alarmiste, hein, sur Sciences Po et sur le reste. Faut-il stopper le financement public de Sciences Po, Perico Légas?
Alors, l'école des sciences politiques, Sciences Po, est liée à l'histoire de la République. Elle est le vivier dans lequel la France a trouvé, plus que l'ENA encore, ses grands esprits, ses grands gouvernants. C'est la classe,
souvent on fait les deux.
C'est l'école de l'honneur de la République. On va tout simplement repartir à zéro, on la ferme, on la rouvre, et on dégage des gens qui n'ont rien à y faire. Alors, on fait des critères de sélection, on s'assure.
Mais ils ont été sélectionnés, ces gens.
Non, on la ferme telle qu'elle est.
Ils ont tué... la ferme carrément.
Trois jours, symboliquement. Ah oui. Ils ont tué Sciences Po, on détruit cette école-là qui n'est plus Sciences Po, qui est un espèce de truc hystérique, totalement récupéré et détourné de sa vocation, alors que c'est l'école de la démocratie, de la tolérance, du respect du prochain, du débat démocratique, on est d'accord. On la rouvre avec un statut, avec une charte, avec des contraintes terribles, et on retrouve la grande Sciences Po. Mon père a fait Sciences Po, mon épouse a fait Sciences Po. Je sais les gens, j'ai déjà mis de Sciences Po. C'est des gens exemplaires, et c'est grâce à Sciences Po qu'ils le sont. On va pas laisser à des petits merdeux, à des petits voyous, à des salauds, le fait de souiller cette école. Donc on la ferme, on la rouvre dans des bonnes conditions.
Encore une fois, hein, c'est une minorité d'étudiants de Sciences Po. On a l'impression que c'est tout Sciences Po, mais c'est une minorité. Robert Sebag.
Vous êtes obligé, Estelle, de remonter un petit peu en arrière, parce que la déchéance de Sciences Po, elle a commencé avec M. Decoing, qui a supprimé les oraux, qui a supprimé l'épreuve générale. Ensuite, il est mort.
Qui a fait rentrer aussi des élèves qui, avant, ne rentraient pas à Sciences Po.
Il y a une discrimination. Voilà. Il y a à la fois une discrimination positive pour faire rentrer les gens de banlieue, mais une discrimination négative sur les gens des beaux quartiers, les élites des grands lycées. Ensuite, après, il y a eu monsieur, il est mort. Il y a eu Olivier Duhamel, le scandale d'Olivier Duhamel. Après, il y a eu monsieur Vichra, lui aussi un scandale. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, elle n'est plus gérée vraiment, cette école. Et deuxièmement, c'est le deux poids deux mesures, si vous voulez. Où était Sciences Po quand il y a eu Bachar el-Assad, à bombarder chimiquement les populations avec l'aide des Russes? Pas un mot. Les Ouïghours, pas un mot. Les Rohingyas en Birmanie, pas un mot là-dessus. Quand c'est Israël, alors on peut le dire, moi je suis contre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, mais il y a quand même deux poids, deux mesures.
Absolument.
L'amphithéâtre de Sciences Po, qui avait un an, on l'appelle l'amphithéâtre Gaza. On permet à M. Mélenchon de venir, mais dès que c'est M. Kepel, Madame la femme de Jospin, Agassi, ou celle qui a écrit un livre sur les fleuristes, ils sont interdits. Elle est où la liberté d'expression? Elle est effectivement à sens unique. J'aurais voulu que ce matin, il y a une répression énorme aujourd'hui en Iran contre les femmes. J'aurais voulu que les gens de Sciences Po, ils sortent dans la rue aujourd'hui pour se plaindre de
le
ce qui se passe en Iran.
Qui va être pendu.
Pas du tout, pas du tout. Donc le deux poids, deux mesures, je suis très triste de le dire, mais je crois que Perico a raison, il faut reprendre tout ça à la base et modifier un petit peu. Et donc, je suis contre la subvention publique, c'était votre question.
Je voudrais juste rajouter quelque chose. Richard Decoing, il a ouvert Sciences Po à des élèves qui avant ne pensaient même pas qu'ils pouvaient atteindre Sciences Po. Ça n'a pas fait baisser le niveau. Et encore une fois, c'est pas forcément ces élèves de banlieue dont vous parlez qui sont en train de manifester. C'est peut-être aussi.
Il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Il y a plein de fils de bourgeois du 6e et du 7e dans cette manif.
Personne
n'a dit ça. Pas de faux procès, parce que ça éliminera le vrai problème si on fait ça.
Je suis désolée, mais je veux que
tu le précises. C'est très bien.
Parce que quand on parle effectivement du fait que Sciences Po soit ouvert à tous,
la majorité, c'est même des fils de bourgeois.
Merci de dire.
J'ai donné des cours à Sciences Po, donc je suis ravi de ça, si vous voulez. Je dis qu'il y a une discrimination positive, il y a eu aussi une discrimination négative, et que malheureusement la suppression des oraux, la suppression de la culture générale, la suppression de l'anglais, etc. Voilà. Ça
c'est
a baissé
plus ça
un petit
le problème, c'est pas l'ouverture. Le problème, il est là.
C'est tout, mais vous avez raison.
Je voulais apporter une petite précision.
Est-ce qu'on n'a pas tout dit quand on dit que le guide suprême iranien a soutenu ce mouvement initié par 200 crétins.
C'est le
guide suprême iranien. Mais est-ce qu'on se rend compte
aujourd'hui,
en France, Sciences
Po,
le guide suprême iranien soutient des gens qui sont soutenus eux-mêmes par LFI? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit quand on dit ça?
Sciences Po est aujourd'hui l'entité où s'exerce le vrai fascisme français. Pas ailleurs. Là.
Pas. Le guide suprême iranien, mais qu'est-ce qu'on veut de plus que ça?
Il y a des répressions aujourd'hui
en Iran. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça?
Ils sont où les étudiants de Sciences Po devant la porte?
Le chef des Mollahs soutient ce mouvement.
Ce mouvement.
Alors, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça?
Ensuite, on passe dans un point Godwin, donc on va sortir là.
Alors, petite info, Paul Lassen.
Oui, une manifestation pro-palestinienne a lieu en ce moment à la Sorbonne. L'Académie de Paris vient de décider de stopper les cours et les examens qui étaient prévus aujourd'hui sur le site.
Et voilà. Une minorité qui prend en otage tous les autres.
On va terminer avec un sujet un petit peu plus léger. Apolline Matin, ce matin sur RMC. Partagez-vous vos plats faits maison sur les réseaux sociaux. Une application a compilé les plats et les desserts les plus publiés par les Français sur leurs réseaux sociaux. Et Charles Magnin nous en a dévoilé le classement ce matin sur RMC.
Dans le top 10, 7 desserts, avec tout en haut du classement, la crème brûlée. Mais oui, c'est la recette la plus populaire et la plus partagée sur les réseaux.
Ah, peut-être mais peut-être parce que c'est belle. Compliqué à faire. C'est pour ça que vous la cherchez. Les gens sont fiers. Vous googlez, quoi.
On en est fiers et puis c'est joli aussi. Mmh, c'est juste devant c'est les crêpes, Apolline.
Ah, mais moi j'ai un avis là-dessus. Elle a une crêpe bien à la maison. Par exemple, je ne laisse jamais reposer la pâte. J'ai jamais compris pourquoi on la laissait des heures.
Ah, bah ça... si, pour que. Bon, vaste débat. En troisième place, le foie gras. C'est l'un des trois mets salés de ce top 10 dans lequel on retrouve aussi la raclette et le croque-monsieur. En revanche, énorme succès donc de la pâtisserie, les madeleines, le millefeuille, le Paris-Brest ou encore les macarons qui sont tous dans le top 10.
Bien sûr qu'il faut laisser reposer la pâte à crêpes, Érico, dites-lui à...
Très bizarre ce classement quand même.
Ah oui, c'est n'importe quoi.
Alors on prend un risque à ne pas la laisser reposer, que là, ça se défasse, voilà. Ouais. Faut pas laisser trop longtemps. Alors,
Périco, est-ce que vous prenez vos plats faits maison, des fois en photo, là, comme ça, sur les réseaux sociaux?
Alors, j'inaugure, là c'est incroyable que ce sujet soit
c'est incroyable.
À la demande générale, sur des pétitions et des manifestations de masse, je vais aller sur Instagram, mettre une fois par semaine... mon plat de la semaine.
Ah, génial!
Avec le bœuf Wellington.
C'est pas facile.
Ah, tu commences avec un truc anglais.
Que j'ai raté, donc bravo. J'ai dû refaire trois fois avant de réussir. Et voilà, j'ai la belle photo. Et je vais enfin,
on m'a donné votre recette.
Ma recette, et mon commentaire historique et tout, voilà.
Ah là là, comme Vincent Ferniaud, François-Régis Gaudry ou encore Laurent Mariotte.
Française de commencer par le bœuf Wellington.
Oui, mais ça c'est un peu dommage. Vous auriez pu commencer par un foie gras maison, par exemple.
Oui, mais c'est la bataille de Waterloo va bientôt se célébrer le 15 juin, donc le temps qu'on.
Ah oui, d'accord. Daniel, est-ce que vous montrez les... Vous mettrez
jamais. Attendez, je voudrais juste faire un commentaire là-dessus. Très grande nouvelle. Mais effectivement, vous avez vu sur le plan nutritionnel, c'est une catastrophe.
Ah ben ça c'est sûr.
Voilà,
c'est que vous voyez. Pardon, mais on va pas mettre une salade de blettes, je veux dire, sur Instagram, ça n'a aucun intérêt. On met des trucs un peu gras. Daniel, toi, jamais de photo de plat.
Écoute, très franchement, je pense que je pourrais parce que c'est une de mes passions et j'attends d'être sponsorisé.
Et les gens attendent ça.
Donc si des marques me sponsorisent, je me lance, je fais.
On va s'en occuper.
T'as vu l'appel un peu là?
Ouais.
Là, il y a un vrai appel.
Moi, je mets que des photos de raclette. Soit ça, je suis sûr qu'il y a pas de.
Ah, là, c'est sûr, il n'y
a pas trop de soucis.
Attention, la raclette, il y a beaucoup de risques. Une mauvaise charcuterie, un mauvais fromage,
a priori
un plat bien dressé,
a priori
une machine qui a pas bien chauffé avant de mettre le fromage dedans. Il y a quand même des détails.
Tout
il y a un détail.
Tout compte, y compris l'outil.
Dans un instant, RMC s'engage avec vous, avec Amélie Rosier, qui a une enquête sur le parcours du combattant de nombreux couples qui n'arrivent pas à avoir accès à la PMA. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis. On est de retour sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. Et tout de suite, on vous aide avec RMC S'engage avec vous et avec Amélie Rosic.
Estelle Midi. RMC S'engage avec vous.
Et Amélie, aujourd'hui, vous abordez un sujet sensible et douloureux pour de très nombreux couples. Ce sont les difficultés d'accès à la PMA, la procréation médicalement assistée.
Oui, et c'est grâce à Anne que nous avons décidé de vous en parler. Elle a 43 ans. Avec son compagnon, elle veut faire un enfant, mais elle a des problèmes de fertilité. Et donc, elle a besoin d'un don d'ovule. Et c'est le début du désenchantement. D'abord, elle est très mal renseignée par l'hôpital auquel elle s'adresse, puisqu'on lui dit, en gros, qu'elle est trop vieille pour une procréation médicalement assistée. Sauf que c'est faux. La PMA est possible jusqu'à 45 ans et prise en charge à 100% par la Sécurité sociale jusqu'à 43. Mais surtout, Anne est née en Inde avant d'être adoptée par une famille française. Et dans ces cas-là, en fait, les médecins font tout pour que l'enfant ait la même couleur de peau que ses parents. Ça s'appelle l'appariement. Et ça complique les choses.
pour les femmes d'ascendance africaine, c'est hyper dur. Donc, quand on est d'une ethnie encore plus minoritaire, j'imagine même pas les délais, quoi.
Alors, ces délais, nous les avons trouvés. Pour un couple blanc, il faut compter 2 ans en moyenne pour bénéficier d'un don d'ovules qui leur ressemble. Et pour un couple mixte, c'est 3 à 10 ans.
10 ans?
Oui, 10 ans.
Bah oui, donc effectivement, si tu te prends à 45 ans, c'est compliqué, quoi.
Bah voilà, a priori, tu vas pas y arriver, ouais.
Comment ça se fait, en fait, ce délai d'attente?
Bah tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de donneuses. Fin 2022, c'est les derniers chiffres dont on dispose, il y avait environ 2 fois plus de demandes que de dons.
Bon, d'accord.
Bah, voilà, c'est mathématique. En France, le don d'ovocytes est un acte gratuit, non rémunéré, qui est possible de faire quand on est âgé, quand on est une femme, évidemment, âgée entre 18 et 37 ans révolus. La procédure, elle est simple, mais elle est contraignante, faut bien le dire, très contraignante. Faut stimuler les ovaires avec des prises d'hormones pendant 10 jours avant le prélèvement à l'hôpital qui dure 10 minutes en tant que tel, le prélèvement. Mais au total, faut rester au moins 3 heures.
Comment faire pour changer la donne, Amélie?
Bah déjà en parlant, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que Anne nous a écrit, et puis aussi en sensibilisant. Et ça, c'est ce que fait l'agence de biomédecine. En octobre dernier, l'organisme a lancé une campagne nationale qui est intitulée Fête des parents. Ça rappelle un peu un certain réarmement démographique d'Emmanuel Macron. Ça, c'est pour inciter au don. La campagne, malheureusement, s'est arrêtée en janvier. Nous avons donc demandé à l'agence de prolonger cet effort de sensibilisation. Et c'est pour ça qu'Anne nous a écrit, pour appeler au don, mais aussi pour inciter les jeunes femmes à anticiper, en quelque sorte, leur désir de maternité.
Moi, je dirais franchement à toutes les jeunes filles, si vous êtes d'origine étrangère et que vous avez la possibilité de faire conserver vos ovocytes, faites-le. Si elles acceptent d'être donneuses aussi, elles aideront d'autres femmes.
Voilà, parce qu'on va rappeler, faire conserver ses ovocytes, donc c'est une ponction et c'est de les congeler. Avant, c'était possible uniquement si on était atteinte, par exemple, d'endométriose. Maintenant, c'est possible pour toutes les femmes.
Oui, et gratuitement.
Et de les conserver. Donc, c'est ce que dit un peu Anne, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, elle n'a pas 36 000 solutions. C'est éventuellement l'Espagne, par exemple, où il n'y a pas de limite d'âge pour la PMA et où l'accès aux dons est facilité. Ou bien, carrément, aller en Inde. Mais en fait, tout ça, ça coûte très, très cher. Et donc, évidemment, c'est pareil, remboursé pour elle. C'est trop tard par la sécurité sociale.
Et t'as pas d'assurance de succès non plus.
Exactement. Donc voilà, ça complique un peu les choses. Et c'est pour ça qu'elle a pris la parole. C'est pour alerter et puis anticiper, en fait. Ouais.
Et ce sont des parcours très durs pour les femmes. Il y a de nombreuses aussi fausses couches, etc. C'est pas
exactement. Oui, c'est 25%.
Et tu es obligé d'aller en Espagne une fois, deux fois, trois fois.
C'est environ 25% de réussite. Ouais. Donc si à chaque fois faire les trajets, voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'elle nous a alerté et qu'on a pris ce sujet.
Merci beaucoup, Amélie. Et bien sûr, on espère que ça marchera pour Anne et pour toutes les femmes qui essayent. On parle de quoi demain?
D'un tout autre sujet, de Julien qui a eu son permis de conduire.
Oui. Bon, c'est super.
C'était il y a 8 mois. Il l'attend toujours.
Mais non.
C'était en août.
Donc il ne peut pas conduire?
Ok,
d'accord, on en parlera demain. Merci beaucoup, Amélie. Amélie, petite question indiscrète. Est-ce que vous aimez partir en vacances en croisière?
C'est un cauchemar. Je pense que je ne pourrais jamais partir en vacances en croisière. Parce que soit en croisière sur un voilier, un truc un peu bobo, sympa, mais je pense que je vomis. Je vomis tripé boyau pendant 15 jours. Soit un énorme paquebot, mais alors vraiment l'idée d'être enfermé avec 2000 personnes pendant 2 semaines, c'est pas possible.
Oui. Eh bien écoutez, c'est le paradis pour beaucoup de gens parce qu'en 2027, on attend 40 millions de passagers sur des paquebots de croisière, ce qui est beaucoup. Voilà, c'est une croissance astronomique. Mais est-ce qu'il faudrait limiter justement le nombre de ces croisières? On vous pose la question dans un instant dans Estelle Midi. Et puis on vous attend si vous détestez les croisières comme Amélie ou si au contraire ce sont vos vacances de rêve. Eh bien n'hésitez pas, appelez-nous au 3216 ou écrivez-nous sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.